Discours d'inauguration de la place de l'abbé Grégoire par Aimé Césaire. Un jour, à Sainte-Hélène, parlant d'un prêtre français à qui les puissants du jour n'épargnaient pas les tracasseries, Napoléon disait « S'il le chasse de France, il doit aller se réfugier à Saint-Domingue. » L'ami, l'avocat, le panégyriste des Noirs sera un dieu parmi eux. Qui était donc cet homme, ce blanc, ce prêtre que les Noirs, au sentiment de Napoléon, devaient considérer comme un dieu ?
Il s'agissait de l'homme à qui la municipalité et le peuple de Fort-de-France rendent aujourd'hui un solennel hommage. Henri Grégoire, ancien évêque de Blois. Henri Grégoire, qui se nommait lui-même l'ami des hommes de toutes les couleurs. Henri Grégoire, universellement connu et respecté sous le nom d'abbé Grégoire.
Il n'est pas facile de lui rendre hommage. C'est un géant qui dépasse toutes les toises. Pas facile de le camper, il déborde tous les cadres. Pas aisé non plus de les saisir tant il est multiple. Parler de lui, même, n'est pas commode. Il faudrait raconter presque toute la Révolution.
Homme politique, homme d'église, professeur, agronome, ethnographe, bâtisseur d'écoles et d'universités, toujours à la pointe, on le retrouve en chacune des allées de cette Révolution à laquelle il contribua si puissamment. On le retrouve chaque fois qu'une idée hardie est à défendre, une pensée généreuse à promouvoir, une méthode nouvelle à lancer, une attitude énergique à prendre. Homme d'avant-garde, il fut chantre de la démocratie, dont il prononça quelques-uns des maîtres mots, et surtout champion de la fraternité humaine.
Que Grégoire, pendant plus de 40 ans, ait fait de la question coloniale son affaire. Les souffrances endurées par des nègres, sa passion, de la lutte contre l'esclavage et le colonialisme, sa lutte. Il y a déjà là quelque chose qui frappe et émeut. Car il ne saurait être question, ici, d'influence du milieu, ni de déterminisme géographique. L'abbé n'est point de Nantes, ni de Bordeaux. Il n'est pas un habitué du commerce des îles. Il n'est pas non plus un soldat, ni un marin. Ces hommes ouverts sur le large. Terrien, jusqu'au bout des ongles, paysan, lorrain, rien. Dans ce grand drame qu'il occupera toute sa vie, ne le prépare à être acteur. Rien, sinon son imagination, sa puissance de sympathie sans égale. Rien dans sa vie, sinon, peut-être, le fait d'avoir vécu à Metz, où il eut le temps de plonger son regard dans le ghetto et d'en rapporter la première analyse matérialiste de la question juive que l'on connaisse.
Est-il moyen de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en France ? En 1785, Grégoire répond par un mémoire éblouissant à la question posée par la Société royale des arts et des sciences de sa ville. 4 ans après, c'est la Révolution, et Grégoire passe naturellement de l'Académie de Metz et de sa cure d'Amberménil à la Société des Amis des Noirs de Paris, du ghetto à la case de l'esclave. Mais le caractère pathétique du problème nègre, du côté exotique de la question coloniale, vont décupler la vigueur de Grégoire et l'élever au-dessus de lui-même.
Je ne veux pas ici déformer le visage de l'abbé Grégoire. Prêtre il fut, prêtre il restera devant la postérité, passionnément attaché à sa religion et, jusqu'au martyr, fidèle à son Dieu. Mais rien ne m'empêchera de dire que ce prêtre fut de cette lignée d'hommes extraordinaires qui, au XVIIIe siècle, décidèrent d'agrandir vertigineusement le domaine de la raison humaine, quitte à rogner le royaume de la foi, à empiéter sur les chasses gardées de sa théologie.
Si les mots de Diderot sont justes, qui définit l'esprit philosophique comme un esprit d'observation et de justesse qui rapporte à tous ses vrais principes, si Condorcet a raison, qui assigne comme tâche aux philosophes de poursuivre et d'accomplir l'entière destruction des préjugés qui paralysent l'essor de l'esprit, alors il convient de proclamer que peu d'hommes, au XVIIIe siècle, ne méritent autant que l'abbé Grégoire le nom de philosophe. D'ailleurs, en supposant que nous hésitions à employer le mot, Grégoire lui-même lèverait nos scrupules en une phrase mémorable où il se proclame « fils spirituel de Descartes ». C'est en effet Grégoire qui écrit « Le doute méthodique » en rappelant à l'examen les opinions reçues, à déblayer les préjugés, émousser le glaive de l'intolérance, éteint les bûchers de l'inquisition et affranchit les nègres.
Phrase capitale, par quoi il est loisible de saisir que, chez Grégoire, l'action révolutionnaire n'était pas un simple accident, mais l'aboutissement d'une réflexion approfondie qui avait pour support la vie d'une pensée et la loi d'un esprit.
Comment cela s'arrange-t-il avec les exigences de la foi ? Rapiècement et bigarrure, sans doute, mais emporté dans un tel élan, brassé par un sang si riche, fondu au feu d'une telle chaleur que nul, chez cet homme compliqué et pourtant tout d'une pièce, ne songe à la contradiction. Avec son esprit jamais engourdi, jamais renfrogné, toujours ouvert, aucune audace, aucune vue scientifique, aucune hypothèse ne l'a effrayé, Grégoire. Familier des pères de l'Église, mais tout autant d'un Cuvier ou d'un Laplace, il se fiait moins pour transformer le monde au vertige de la spéculation enivrée qu'à la tranquille assurance de la pensée rationaliste.
Et vient la conclusion précieuse, irréfutable. Les recherches les plus approfondies sur l'organisation humaine prouvent que, malgré les différences de couleurs, jaune, cuivrée, noire et blanche, elle est une. Mais les différences entre civilisations, dira-t-on ? Grégoire a sa réponse toute prête. Les différences entre niveaux de culture ne résultent jamais que de différences d'éducation et de conditions raciales.
Il y a longtemps, les indigènes d'Afrique et d'Amérique se seraient élevés à la société la plus développée qu'ils ont pu employer à cette bonne œuvre la centième partie des efforts d'argent et de temps qu'on a consumé à tourmenter, à égorger plusieurs millions de ces malheureux dont le sang crie vengeance contre l'Europe. Telle est l'argumentation de Grégoire contre le préjugé de couleur, si dru, si serré, si implacable, qu'on voit mal ce qu'on pourrait y ajouter aujourd'hui, et qu'elle suffit pour qu'on puisse dénier à Henri Grégoire d'avoir été le premier réfutateur scientifique du racisme.
Du sang, que de sang en ce siècle des Lumières, mêlé à la terre d'Afrique, mêlé à la vague atlantique, mêlé à l'humus vierge des Antilles. Sillage du négrier et fouet du commandeur, la fièvre du planteur a apaisé, l'opulence de Bordeaux a développé, la balance du commerce à soutenir et la richesse des nations. Et l'intérêt des États, c'est à vous que la doctrine officielle a suspendu tout cela. Et c'est tout cela, préjugés, calculs, intérêts privés et publics, armateurs, ministres, et aussi les avidités, les perversités, les complicités, toute cette coalition de profits, ce système bien jointoyé de lâcheté et de crime, c'est tout cela que Henri Grégoire défie en un combat singulier. Fier, emporté, véhément, ce n'est pas de son impétueux et torrentiel génie que l'ennemi attend des ménagements.
Trop forte sont ses convictions, trop ardente sa passion de la justice, trop vibrante sa pitié pour les faibles et les innocents, pour que Grégoire louvoie et épargne. Il a raisonné, il a réfuté, il a augmenté, mais il faut qu'à la fin son cœur éclate. Il faut que la sécheresse de la démonstration fasse place aux sanglots d'une sensibilité déchirée ou au fracas de l'imprécation. Et c'est un Grégoire nouveau que nous découvrons alors, un Grégoire que l'indignation porte au sommet de la prophétie.
On sait où le zèle anticolonialiste de Grégoire, son amour de la justice, une justice qu'il voulait immédiate et terrestre, devait le conduire dans l'arène politique, dans les assemblées révolutionnaires, en pleine pratique et jusque dans la fournaise où se forge l'événement.
C'est quoi ici? C'est où qu'on arrête ça?